Chapitre 35. 4 jours durant, le voyage continua sous un ciel plombé. Brouillard le matin, bruine dans la journée, orage pendant la nuit, un régime éprouvant. À cause des nuages bas et de la ligne dense des arbres, les voyageurs n'avaient guère de visibilité. Avançant pour l'instant à l'aveuglette, ils finiraient bien par atteindre le sommet d'un pic et avoir une superbe vue sur la vallée fertile que tout le monde leur avait promise. Pour se protéger du froid en altitude, Nietzsche s'était enveloppé dans un épais manteau offert par la femme de l'aubergiste de Lockridge. Gorgé d'eau, le vêtement pesait une tonne. Pas mieux loti, Nathan et Bannon faisaient grise mine. La cinquième nuit, l'averse dépassa tout et la température chuta vertigineusement. Par bonheur, Nietzsche repéra un pin compagnon. Quand on savait les reconnaître, ces arbres étaient les meilleurs amis des voyageurs transis. Des années plus tôt, Richard avait révélé à Nietzsche tous les secrets de ses refuges naturels. Écartant les branches, la magicienne révéla l'abri douillet qu'offrait le tronc creux.
« Nous dormirons ici. »
Nathan s'installa dans un coin sur un tapis d'aiguilles.
« Magicienne, si nous trouvons un bon gigot de mouton et de la bière, ce sera une des plus belles soirées de ma vie. »
Encore troublé, Bannon s'assit, genoux contre la poitrine.
« Réjouis-toi plutôt de ce que nous avons déjà, » dit Nietzsche.
Avec sa magie, elle alluma un petit feu dont la fumée s'évacuait à travers les branches. Ses compagnons et elle étant trempés et gelés, elle sécha tous leurs vêtements. Ainsi, pour la première fois depuis des jours, les trois voyageurs se sentirent au chaud.
« Je supporte les conditions les plus pénibles, » expliqua la magicienne, « mais seulement quand j'y suis obligé. » Pour récupérer, il nous faut du repos dans un environnement agréable. Qui sait à quelle distance du but nous sommes ?
Le chemin, c'est déjà un peu le but,
rappela Nathan.
Et Colader ne sera qu'une étape. Dès que je serai redevenu entier, nous repartirons explorer l'ancien monde.
Pour ce soir, reposons-nous. Demain sera un autre jour.
Grâce au feu, ils purent se préparer une soupe à base d'orge, de viande séchée et d'épices. Après dîner, en récupérant de l'eau de pluie, ils se firent une délicieuse infusion. Quand Bannon s'enroula dans son manteau désormais sec et fit mine de s'endormir, Nathan le regarda avec une sincère inquiétude.
« Les aventures ressemblent rarement à ce qu'on attendait, » souffla-t-il à Nietzsche,
assez fort pour que le jeune homme entende. Le lendemain, alors qu'il pataugeait dans de la boue, Nathan dégaina son épée et vint défier Bannon.
« Tu avances comme un escargot, fiston. Si tu continues à baisser les yeux, un dragon finira par te sauter dessus sans que tu t'en aperçoives. »
Le vieil homme barra le chemin à son compagnon.
« Défends-toi, sinon tu ne nous sers à rien. »
À la grande surprise de Bannon, le sorcier abattit son épée très lentement pour que sa cible ait le temps d'esquiver.
« Nathan, arrêtez! Que comptez-vous faire ?»«
Te réveiller, fiston. » « Et cesse de me vouvoyer, ça me vieillit !»
Nathan frappa de nouveau, plus sérieusement. Bannon s'écarta et dégaina solide.
« Je ne veux pas me battre contre vous, toi !»«
Pitoyable !» fit le sorcier en avançant. « Quand des ennemis assoiffés de sang me défient, je leur crie que je suis prêt à en découdre. C'est ce qui fait toute la différence !»
Nathan frappa encore. Cette fois, Bannon para le coup. Effrayés par le bruit, des oiseaux s'envolèrent d'un arbre proche en quête d'un coin plus tranquille. Même si elle comprenait la léthargie de Bannon, Nietzsche approuvait la stratégie de Nathan. Depuis que le jeune homme avait dû regarder la réalité en face, il ne valait guère mieux qu'un bateau sans gouvernail ni voile. Au fil des ans, la magicienne avait su doter d'une carapace son cœur et son esprit. À son âge, Bannon ne pouvait pas se défendre aussi bien. Quand son adversaire contre-attaqua, Nathan cria de joie.
« Bravo, fiston »
lança-t-il.
« Si nous devons affronter d'autres monstres, je veux pouvoir compter sur toi !»
Les deux hommes se poursuivirent dans les broussailles, frappant et parant d'abondance. Puis, Bannon passa à l'offensive et réussit à faire reculer son adversaire. À un moment, garde contre garde, les deux escrimeurs parurent devoir finir sur une égalité, mais Bannon, de nouveau expressif comme un gamin, poussa de toutes ses forces et Nathan glissa sur des feuilles mortes couvertes de boue. Le vieil homme s'étala. Vainqueur moral, Bannon perdit aussi l'équilibre et tomba à côté de son mentor. Hilar,
Les deux hommes acculés debout s'aidèrent à se relever. Enveloppée dans son manteau, Nietzsche croisa les bras. Puis elle eut un hochement de tête approbateur à l'intention du sorcier.
« Par les esprits du bien !» fit Nathan. « Ça n'a pas arrêté la pluie, mais ça t'a déridé, fiston !»«
Désolé, » marmonna Bannon. « Quand j'ai voulu quitter Chiria, j'ai pensé... Eh bien, j'ai cru que c'était une fuite. Mais je me trompais. » Le jeune homme pointa le menton souillé de boue. « Mais bon, je veux vous accompagner, mes amis. C'est le voyage dont j'ai toujours rêvé. »«
Parfait !» jubila Nathan. « Alors en route pour le monde !»
Nietzsche prit la tête du groupe.
« En insistant, on finira peut-être même par trouver un endroit où il ne pleut pas. »
Avec l'altitude, les nuits devinrent plus froides encore, mais la pluie consentit à s'arrêter, après avoir nettoyé les manteaux des deux garnements cependant. Deux jours plus tard, les nuages laissèrent la place à un beau ciel bleu. Ragaillardi, Nietzsche accéléra le pas sur la route devenue une piste, et encore, c'était un bien grand mot. Depuis Lock Ridge, les trois compagnons n'avaient pas aperçu âme qui vive. Pas étonnant, songea Nietzsche, que Jagang n'ait pas mobilisé de troupes pour conquérir un désert pareil. De temps en temps, les voyageurs passaient devant les ruines de grands bâtiments en pierre envahis par la végétation.
« Cette région devait être prospère il y a des millénaires, » dit Nathan. Après l'érection de la barrière à la fin des Grandes Guerres, Sulakan et ses successeurs, ne pouvant plus envahir le Nouveau Monde, se sont rabattus sur le sud. On y trouvait des villes, des routes, des comptoirs commerciaux, des mines, des villages, des chefs de guerre et des conflits internes. À dire vrai, l'empereur Kourgan a consacré la plus grande partie de ses efforts à la conquête du sud de l'Ancien Monde.
C'est pour ça qu'on le connaît si peu chez nous, dit Nietzsche. Il ne comptait pas dans l'histoire.
Sauf pour les gens d'ici, corrigea Nathan.
Je ne vois pas de gens, dit Bannon.
Recours donc à ton imagination. Ils étaient ici.
Les trois voyageurs s'arrêtèrent un moment devant les vestiges de ce qui avait dû être une puissante forteresse.
Quand on vit dans une tour, le monde a tendance à vous oublier, marmonna Nathan.
Alors qu'ils s'éloignaient des ruines, Nietzsche et Bannon sur les talons, le vieil homme continua à soliloquer.
Je vous ai parlé de l'époque où j'ai tenté de m'évader du palais. En digne jeune idiot, je n'avais pas compris que c'était impossible.
Les sœurs n'ont jamais mentionné ça, s'étonna Nietzsche.
J'avais à peine 100 ans. Un gamin, rien de plus. Impétueux, le goût du risque, et mort d'ennui. D'accord. J'avais accès à des centaines de livres passionnants, mais pour un jeune homme, ça ne remplace pas l'aventure et le rêve. Refusant d'être le prophète apprivoisé de ces dames, j'ai tiré des plans sur la comète pendant des mois. Avec leur fichu Radahan, les sœurs contrôlaient ma magie. Donc impossible de se fier à un sortilège pour prendre la poudre des scampettes. Quand je me suis plaint d'avoir froid, les sœurs m'ont fait apporter des couvertures. Avec un filament de pouvoir, je les ai détissés pour me fabriquer une très longue corde assez résistante pour supporter mon poids. Une semaine durant, je me suis montré agréable et studieux, histoire d'endormir la méfiance de ces mégères. Par une nuit sans lune, je suis allé dans une pièce tout en haut d'une tour et je m'y suis enfermé sous prétexte d'étudier en paix d'antiques grimoires. Curieux de nature, je voulais développer mes pouvoirs, même en sachant qu'ils ne m'aideraient pas à fuir.
Nathan se massa le cou comme s'il sentait encore le collier de fer qui l'enserrait.
« Un prophète est un type vraiment trop dangereux, comprends-tu, fiston ?»« Dans mon refuge, j'ai ouvert une fenêtre, puis j'ai attaché ma corde à un gros anneau fixé au mur. Un sort de lévitation étant exclu, il fallait bien s'adapter, non ?»« Quand j'ai commencé la descente, j'ai eu l'impression de m'enfoncer dans un puits qui donnait directement sur le royaume des morts. »
Nathan fit un clin d'œil à Bannon.
« Lorsqu'on est enfermé, l'immensité du ciel est une notion difficile à saisir, tout comme la hauteur d'une tour, mais j'étais décidé. La corde autour de la taille, j'ai continué à descendre. »
Des sortilèges et des champs de force défendaient le palais des prophètes, intervint Nietzsche. S'échapper par une fenêtre était impossible.
Le vieil homme brandit un index sentencieux.
« Pourquoi crois-tu que les sœurs ont ajouté toutes ces protections ?»« À l'époque, ces femmes jugeaient suffisant de bloquer les portes avec des sortilèges. Elles n'imaginaient pas qu'un fou tenterait de s'enfuir par une fenêtre. »
Le sorcier eut un geste insouciant.
« Bref, je pendais à une corde, le long de la façade d'une tour, et pour ça il fallait être sacrément courageux.
Hélas, quand je suis arrivé à 100 pieds du sol, ma corde de malheur s'est révélée trop courte. J'étais piégé. »
Pour souligner ses effets, le sorcier marqua une pause.
« Expert en magie additive, j'ai lancé un sort pour faire grandir les fibres de la corde.
Bien sûr, les sœurs allaient s'en apercevoir grâce au Radahan, mais que pouvais-je faire d'autre ? Remonter à la force des poignets ? Mon œil, oui.
Pied après pied, j'ai rallongé la corde pour arriver jusqu'en bas.
L'opération demandant beaucoup d'énergie, j'étais vidé quand elle fut achevée. »
Nathan soupira bruyamment.
Les sœurs m'attendaient et me capturer fut un jeu d'enfant pour elles.
Mais si tu étais sorti du palais, dit Nietzsche, le Radahan t'aurait empêché de quitter Tanimura. Tôt ou tard, les sœurs t'auraient repris. Ton histoire me laisse dubitative.
Mon histoire est amusante, magicienne, et elle a une morale.
Nathan se tourna vers Bannon.
Parfois, il faut avoir le courage d'essayer d'accomplir un exploit. Mais si audacieux qu'on soit, l'échec est garanti si on ne prépare pas avec soin son plan.
Les trois voyageurs s'engagèrent sur un chemin très pentu.
Après ce fiasco, les sœurs m'ont tellement serré la vis que je n'ai plus jamais tenté de m'évader. Du coup, pour me distraire, j'ai écrit des livres d'aventure en me débrouillant pour qu'ils soient distribués un peu partout.
Tous devinrent des succès populaires.
À bout de souffle, les voyageurs arrivèrent enfin en haut de la pente où les attendait un étonnant spectacle. Depuis le début, il était question d'une vallée fertile avant d'accéder à Koh Lader. Ils avaient donc imaginé de vastes forêts, des villages et des champs cultivés, mais la réalité était bien différente. En guise de vallée, des terres désolées, ocres, constellées de cratères et bordées par un haut plateau s'étendaient à perte de vue. Au-delà des contreforts de la montagne, encore verdoyants, tout n'était que poussière, sécheresse et mort. Là où il aurait dû y avoir des lacs, d'immenses marais salants défiaient les voyageurs de les traverser. Non contente d'être vaste, cette zone d'entropie semblait vouloir s'étendre dans toutes les directions.
« Je vais devoir corriger ma carte, » souffla Nathan, dépité.